Et dans ce texte, on verra que Jésus désire aussi nous rencontrer. Et nous sommes aussi appelés à donner une réponse au texte que nous entendrons ce matin. Avant d'aller plus en avant, j'aimerais juste savoir s'il y a des personnes qui sont compétentes en jardinage ou en plantes. Il y a Bernard, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi? Il n'y a que Bernard. Voilà, là-bas aussi quelques-uns. J'aimerais faire pousser une fleur, une plante délicate. Bernard, tu veux venir vers moi, s'il te plaît? Tu t'es précipité pour lever la main, tu as peut-être des connaissances. Une orchidée, c'est assez délicat, c'est joli. Si tu arrives à... Ça pourra le faire, tu penses?
Il faut toujours un peu... Hein.
Il faut toujours... Non ouais, bon, ça va, là, ok.
Oui, mais donc, ça ressemble un peu à un bout de rosier, ça.
Ouais, alors je sais pas. Ouais, ça.
Puis la terre, il y a beaucoup de cailloux. Hein.
Ouais, c'est pas. Ouais.
Le pot, il est très joli alors.
Le pot, ouais, il est bien, ouais. Oh, ouais alors, merci. J'aime les encouragements. Donc, ça va être compliqué pour l'orchidée, tu dis. Faudrait que je fasse quoi, à ton avis? Mettre un peu de terreau.
Avec du sable.
Je rajoute simplement du terreau et du sable. D'accord, dans un endroit pas ensoleillé, ok. Très bien, puis ça, j'en fais quoi? On les laisse ou faut les enlever? On peut les enlever, d'accord. Ben. N'est-ce pas absurde de vouloir faire pousser une orchidée dans ce pot? Avec des cailloux, des herbes sèches, des ronces. Oui, c'est absurde. Tellement que ça vous laisse, vous dites ça y est. Et peut-être la question que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est est-ce que nos vies parfois ressemblent à ce pot? On cherche à y faire pousser de belles choses. Mais finalement, il y a des cailloux, il y a des ronces. Et ça va être difficile de faire pousser une belle orchidée. C'est ce que Jésus nous raconte dans cette parabole que certains connaissent, qu'on dit la parabole du semeur et des terrains. Et je vous invite à écouter cette parabole. Et nous tenterons de commenter un petit peu après. Cette parabole, nous la trouvons en plusieurs endroits. Et je choisis Matthieu 13. Dès le verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassemble autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je reprends la lecture au verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient enlever ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche. Ensuite, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Pourquoi prendre cette parabole? Les prochains dimanches, vous risquez d'en entendre plusieurs, notamment ce qui concerne les paraboles du royaume, où Jésus nous décrit le royaume de Dieu par des paraboles, par des images. Et ce cheminement trouve sa raison dans notre vision d'Église, une région de Cossonay connectée à Christ pour la gloire de Dieu. Nous désirons que nous faire connaître Jésus autour de nous. Et puis le thème que nous avons choisi cette année pour avancer dans cette vision, c'est porteur d'espérance. Porteur d'espérance. Et avec les paraboles, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelque chose où le royaume de Dieu est déjà là. C'est pas seulement quelque chose de futur qui va s'accomplir une fois. Mais avec les paraboles, nous voyons que le royaume de Jésus est déjà là. Et ce royaume qui est déjà là invite une réponse de notre part. C'est là le but des paraboles. Jésus cherche par des images nous décrire le royaume de Dieu, mais il cherche aussi à nous communiquer comment est-ce qu'on peut répondre à cette invitation de vivre le royaume de Dieu. Alors cette parabole est comme une invitation qui nous est adressée ce matin. Et on va aller plus en avant dans le texte. Est-ce que vous êtes prêts pour cette invitation ? Oui, je repose la question à la fin. Est-ce que vous étiez prêts ? Comment est-ce que vous décririez le royaume de Dieu ? Si vous deviez le faire, le royaume de Dieu, c'est quoi ? Sans écrire un bouquin de théologie, il y en a qui l'ont fait, c'est bon.
Plus de mort.
Plus de mort, exactement.
La justice.
La justice.
L'absence du malin,
très bien. J'aime bien ces définitions-là. Moi, ça me fait penser à une bataille épique à la fin du Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça. Enfin, un truc un peu massif, hein, où il y a de l'émotion. Mais Jésus n'en est pas là. Lui, il nous présente un tableau, une image qui n'a pas forcément d'intrigue. On a un semeur qui va semer, et puis c'est tout ce qui se passe. Il n'y a rien d'autre. Jésus nous propose une image. Un tableau à regarder, plus qu'une scène de film. Et parce que c'est un tableau à regarder, il y a plusieurs endroits où on peut regarder. Et on peut trouver un sens différent, une interpellation. Ceci pour vous encourager à prendre cette parabole et à essayer d'explorer différents chemins. Nous en choisirons un ce matin. Nous en choisirons un, et puis c'est cette interrogation qui m'habite, c'est comment expliquer que certains ont la foi et d'autres pas ? Parce qu'on voit dans cette parabole que la semence ne pousse pas partout de la même manière. Comment expliquer que certains ont la foi et d'autres pas ? Il y a deux facteurs. Il y a les facteurs externes. Notre famille, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, nos amitiés, des relations, ce que nous avons vécu, ce que nous avons subi. Ce sont des facteurs qui n'encouragent peut-être pas toujours la foi, ou qui l'encouragent. En tout cas, les facteurs externes de nos vies ne garantissent pas la foi. Il y a des facteurs internes. Et ces facteurs internes, c'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est nos désirs, nos aspirations profondes. C'est nos raisonnements personnels. Et cette parabole-là vient interroger les facteurs internes. Cette parabole vient voir ce qui se passe, nous invite à voir ce qui se passe dans notre cœur. Un commentateur a dit ceci. Nous avons besoin d'un miroir dans lequel nous voir, et les paraboles sont parmi les meilleures possibles. Cette parabole vient comme un miroir qui nous interroge sur les dispositions de notre cœur, sur nos aspirations, sur nos motivations. Et on a tous des aspirations, des motivations différentes. Et c'est ce que vient de souligner justement l'image de ces quatre terrains. Alors prenons rapidement ces quatre terrains. D'abord, on nous dit que la semence tombe le long du chemin. C'est l'homme qui entend la parole du royaume et qui ne la comprend pas. Le mauvais vient enlever ce qui a été semé de son cœur. C'est lui. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Jésus nous décrit ici une personne qui comprend le message de Jésus, qui comprend l'évangile, mais qui ne se montre pas très réceptif. Il comprend ce qu'il a envie de comprendre. C'est peut-être quelqu'un aussi qui met délibérément de la distance. La foi, ce n'est pas pour moi. C'est un cœur indifférent, un cœur fermé, peut-être même endurci. Le côté spirituel n'a que peu d'attrait pour cette personne. On peut facilement entendre « Jésus est un bon philosophe, il a une bonne morale, peut-être même la meilleure. » Mais voilà tout. Il n'y a rien qui pousse. Ensuite, il y a le deuxième type de terrain, les endroits pierreux. Une autre partie de la semence tombe dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. On nous dit que quand il y a le soleil, il brûle la semence parce qu'elle n'a pas des racines profondes. Ici, Jésus nous décrit une personne avec une foi éphémère, une foi fragile. La semence reste finalement en surface. Elle pousse vite, très vite. C'est même impressionnant. Mais les racines s'avèrent peu profondes. Dès qu'il y a la difficulté qui vient, il n'y a plus grand-chose qui reste. Quand il y a l'épreuve, il y a aussi des doutes. Des doutes qui sont prêts à tout remettre en cause. Peut-être pour cette personne, la foi chrétienne est comme un sentiment, une impression. C'est quelqu'un qui aurait vécu dans un environnement sain, où finalement partager la vie chrétienne avec d'autres, c'est stimulant, mais quand il y a l'épreuve, c'est plus compliqué. Les racines meurent. L'adhésion à la foi chrétienne se fait avec réflexion. Il faut se questionner sur nos motivations. Et qu'est-ce que ça signifiera pour le reste de notre vie? C'est juste une mode parce que des amis sont chrétiens et puis je suis le mouvement. L'adhésion à la foi chrétienne mérite aussi une réflexion, un travail. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que ça signifiera être chrétien pour le reste de ma vie? Ce terrain nous montre l'importance d'avoir des racines en nous-mêmes. Et quand je parle de réflexion, je ne parle pas de connaissances intellectuelles, ce n'est pas le nombre de bouquins de théologie que nous avons lus, mais c'est le temps passé avec Jésus, à comprendre son royaume, à comprendre qui il est. Ensuite, il y a ce troisième terrain, les ronces. Avec les ronces, ce qui est intéressant, c'est que le danger, ce n'est pas tellement dans l'insuffisance du sol, mais c'est dans la concurrence. La graine peut tomber dans de la bonne terre, mais il y a de la concurrence, il y a des ronces qui se partagent le terrain. Il y a des éléments envahissants qui prennent la place. C'est comme un tiraillement intérieur qui nous éloigne petit à petit du royaume de Dieu. Ça peut être des personnes qui créent ce tiraillement intérieur, des relations qui nous préoccupent, des responsabilités, peut-être même des loisirs, des mauvaises pensées, de l'amertume. J'ai tenté une fois de faire un potager. Vraiment, alors j'ai pas la main verte, hein, c'est sûr. La plante au bureau n'a pas encore crevé. J'ai battu mes records. J'ai tenté une fois un potager chez mes parents. Avec l'idée, bah, c'est bien, il faut juste semer, puis ça va pousser. Et mon problème, c'est que vers chez mes parents, il y a de la forêt à côté du potager. Et j'ai remarqué à quel point il fallait entretenir ce terrain, sinon les ronces, elles bouffaient mes carottes et mes radis. Et les ronces, ça va vite. Ça envahit tout. Et pour arracher, si on les laisse s'avancer beaucoup, ça devient compliqué. Ça pique, ça fait mal. C'est un terrain, il faut s'occuper rapidement. Si on ne s'en occupe pas, les ronces viennent tout étouffer. Ça va être difficile de goûter à mes carottes. Ensuite, quatrième terrain, il y a la bonne terre. La bonne terre, et on nous dit en plus qu'elle porte du fruit, mais de manière extraordinaire. C'est-à-dire pour une carotte, j'en ai soit 30, 60 ou 100 qui poussent. Il y a une multiplication qui est là. C'est même de la très bonne terre. Et cette personne-là, c'est celle qui accueille la parole de Dieu. Mais pour qu'une graine pousse dans la bonne terre, ça demande du soin, de l'endurance. Ça prend du temps. C'est du temps dans la prière, dans la réflexion. Ça demande d'étudier aussi son terrain. Pour faire mon potager, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai d'abord dû enlever les grands cailloux pour que la terre soit le mieux possible. Mais une fois que les cailloux étaient enlevés, une fois que les ronces étaient débroussaillées, je ne me suis pas dit « c'est bon ». Enfin oui, je me suis dit « c'est bon, maintenant tout va pousser et il n'y aura plus de problème ». Mais il n'y a pas eu plus de problème. C'est un entretien qui se fait continuellement. La bonne terre, elle n'est pas acquise pour toujours. C'est un travail constant. La bonne terre, c'est la personne qui persévère. Il peut y avoir des difficultés. Mais c'est une personne qui va veiller sur ses racines. Et la récolte sera abondante, voire surnaturel. Alors quand on comprend ces différents terrains, on peut réaliser que ces différents terrains sont notre cœur, notre vie. Et cette parabole est plutôt là pour nous inviter à l'introspection. Le semeur sème, je ne sais pas s'il est maladroit ou pas à faire sur le chemin, peut-être c'est inévitable aussi. Mais toujours est-il que le semeur, il sème. Il ne commente pas les terrains. Il ne juge pas les terrains. C'est pas une invitation. Jésus ne parle pas de cette parabole pour juger, pour condamner, mais pour inviter à l'introspection. À nous inviter à nous poser ces questions. Qu'est-ce qui nourrit ma vie spirituelle ? Qu'est-ce qui peut l'étouffer ou la rendre éphémère? Qu'est-ce que je fais concrètement pour la cultiver afin de porter du fruit? Les questions seront projetées après pour celles et ceux qui prennent des notes, je suis allé vite. Qu'est-ce qu'on fait? Et ces questions peuvent nous amener à différents constats dans nos vies. Mais j'aimerais souligner encore une chose, c'est que le semeur, lui, il sème. Il sème là où d'autres n'auraient pas osé semer. Jésus connaît l'histoire de chacune et de chacun. Il connaît les blessures, il connaît les combats, il connaît d'où on vient, ce que nous avons subi. Jésus ne raconte pas cette parabole pour critiquer. Jésus nous dit plutôt « je suis en train de semer partout ». Mais regardez l'état de vos cœurs. Est-ce que votre cœur est prêt à recevoir cette semence? Est-ce que vos motivations internes sont prêtes à recevoir cette semence? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un caillou? Comme je l'ai dit, la bonne terre n'est pas acquise pour tout le monde, pour toujours. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un caillou? Est-ce que là, il n'y aurait pas des ronces qui viendraient envahir le terrain, des préoccupations trop importantes qui me feraient négliger ma vie spirituelle ? Jésus s'aime. Et il nous invite à lui confier les pierres que nous pouvons voir et les ronces qui sont peut-être là. Dans tous les cas, Jésus connaît le terrain de nos cœurs. Et cette parabole est une invitation à lui confier le terrain de nos cœurs. Une invitation à nous poser des questions, à revoir un peu ce qu'on a à l'intérieur et à dire qu'est-ce qui va favoriser la croissance ? Et sans jugement, Jésus désire faire de nos cœurs un beau terrain, un terrain de bonne terre. Alors je repose ma question de base, qui est prêt pour cette invitation ? Cette invitation à l'introspection ? Il y a moins de mains qui se lèvent, là. Pardon, c'est bon. Mais si vous êtes prêt à faire ce pas, à laisser cette parabole prendre racine, je vous invite à poursuivre avec ces questions que vous pouvez reprendre avec vous. Qu'est-ce qui nourrit ma foi ? Ma vie spirituelle, qu'est-ce qui peut l'étouffer ou la rendre éphémère? Qu'est-ce qui me permettrait d'intérioriser davantage ma foi, d'avoir des racines plus profondes, plus sûres? Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous prenons conscience qu'avec cette parabole, ton royaume est là. Il est prêt à être accueilli dans nos cœurs. Le semeur sème généreusement, mais le résultat est parfois différent. Seigneur, nous voulons prendre cette parabole au sérieux. Et peut-être aussi nous poser des questions sur l'état de nos cœurs. Quelles sont les motivations de ma foi ? Seigneur, nous t'invitons dans nos préoccupations, dans tous nos facteurs internes que nous avons, nos motivations, nos désirs. Nous t'invitons aussi dans les facteurs externes dont nous ne dépendons pas, notamment ceux qui nous aurait éloigné de la foi chrétienne. Seigneur, ce matin, tu nous invites à te faire de la place. Que tu parles au cœur de chacune et chacun, selon ce que tu désireras. Amen.